C'est le député Nicolas Metzdorf qui était ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il a notamment été interrogé sur l'actualité politique en métropole. Extrait dès le début de ce journal. Le haut-commissaire en visite communale à Dimbéa, l'État finance les travaux de deux écoles fortement dégradées lors des émeutes insurrectionnelles de mai 2024. La troisième session d'assises de l'année s'ouvre lundi. Six dossiers seront jugés jusqu'au 23 septembre, deux affaires de sang et quatre affaires de mœurs. À la fin des doctorales à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, les meilleures présentations de thèses ont été récompensées ce matin. Dans ce journal, nous vous proposerons également quelques idées sorties pour votre week-end, week-end qui sera marqué par l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie. Enfin, nous passerons en revue les principaux rendez-vous sport du week-end en Calédonie, en métropole et dans le monde. Et en Calédonie, coup de projecteur sur la No Woman No Sail. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. On est à un moment charnière, reconnaît le député Nicolas Metzdorf quand il est interrogé sur les conséquences pour la Nouvelle-Calédonie de la crise politique nationale. Il était ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, Jean-François Bodin.
Le député de la première circonscription qui a annoncé qu'il voterait la confiance ne se fait aucune illusion. Lundi, le gouvernement Bayrou va tomber et il va y avoir un nouveau Premier ministre. L'important, dit-il, c'est qu'il soit nommé le plus rapidement possible. Dans ce cas-là, le projet de loi organique de report des élections provinciales devrait pouvoir passer dans les prochaines semaines, mais il rappelle qu'il y a aussi un autre scénario.
Le scénario catastrophe, c'est la dissolution. Et là, la dissolution, elle, empêche toute poursuite du calendrier de Bougival, hein, à la fois le report des élections provinciales et le projet de loi constitutionnelle qu'on a travaillé en comité de rédaction lorsque Manuel Valls est venu il y a quelques semaines maintenant, parce que ça voudrait dire qu'on rentre dans une période d'élection et que la majorité issue des urnes à l'Assemblée nationale peut être modifiée. Et donc, est-ce qu'il y aura toujours une majorité pour l'accord de Bougival. Donc on est dans un moment charnière. Alors cette fois, ce n'est pas un moment charnière calédonien. Au moment où il y a une forme de grande coalition en Nouvelle-Calédonie, une grande majorité pour soutenir l'accord de Bougival entre indépendantistes et non-indépendantistes, c'est maintenant à Paris que ça se déstabilise. On ne sait pas comment on va en sortir là.
Dans l'incertitude politique actuelle, il y a une hypothèse selon laquelle les provinciales auraient lieu en fin d'année 2025 si la loi organique n'est pas adoptée. Se posera alors la question du corps électoral, alors qu'une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, a été déposée. Mais l'essentiel, affirme Nicolas Metzdorf, c'est que l'accord de Bougival reste un acquis.
Nous, l'important chez les non-indépendantistes, chez les loyalistes, c'est que l'esprit de l'accord de Bougival demeure. C'est-à-dire, on sait très bien que son application, c'est-à-dire la transformation de l'accord de Bougival en texte juridique à l'Assemblée nationale, au Sénat, va prendre du temps, va être compliqué en fonction du calendrier politique national. Mais là où il faut qu'on se mette d'accord avec l'ensemble des forces politiques calédoniennes, c'est qu'on défende le fait que l'accord de Bougival, lui, demeure. L'accord, il est toujours là. Il est signé, il est adopté, il est défendu par l'ensemble des forces politiques, sauf le FLNKS-CCAT. Mais tous les autres partis calédoniens qui veulent que la Calédonie soit une démocratie et progresse défendent l'accord de Bougival. Donc l'idée, c'est de dire, peu importe la manière dont les choses se déroulent à Paris, il faut que l'accord de Bougival reste politiquement un acquis.
Autre risque de l'instabilité politique, les conséquences budgétaires. Alors que la Calédonie connaît la crise économique et sociale la plus importante de son histoire, on a impérativement besoin de l'argent de l'État, rappelle le député Metzdorf.
Aujourd'hui, l'État en Nouvelle-Calédonie, c'est 350 milliards d'aides quand même, hein, de francs pacifiques. Donc on est très dépendant de l'État et donc on est très dépendant du budget de l'État. Et si en France hexagonale, le budget de l'État n'est pas voté à cause de l'instabilité, on va nous dire, ben, en fait, le milliard d'euros qu'on vous a prêté pour 2025, il va falloir l'étaler un petit peu aussi sur 2026. Mais ça veut dire qu'en fait, notre milliard d'euros qu'on a obtenu jusque-là, il va financer des choses qu'il ne devait pas financer parce qu'on va devoir l'étaler sur l'année prochaine. Et puis, il y a la question de ces 240 millions d'euros de ces 27 milliards de francs pacifiques qui
gagnent la deuxième tranche.
Ça, c'est l'urgence absolue aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une incidence financière importante si la France est instable. Et l'incidence financière, ce n'est pas seulement des grands chiffres que j'annonce, hein, des dizaines et des centaines de milliards que j'annonce comme ça, c'est le quotidien.
C'est l'argent de l'État qui finance tout aujourd'hui, ajoute Nicolas Metzdorf. Et sans budget de l'État, la Calédonie va souffrir. C'est, explique-t-il, ce qui justifie son vote de la confiance au gouvernement Bayrou. Il part demain en métropole, notamment pour défendre l'accord de Bougival auprès de ses collègues, après avoir tenu de nombreuses réunions publiques pour informer les Calédoniens.
Il y a des questionnements, des interrogations, parfois des inquiétudes, mais il n'y a pas d'opposition frontale au texte de Bougival. Donc on considère aujourd'hui qu'il y a une grande majorité de Calédoniens qui défendent cet accord. Donc pour la Nouvelle-Calédonie, on peut dire c'est fait. Enfin, c'est un peu présomptueux de le dire comme ça, mais en tout cas, le travail de ces deux derniers mois a payé. Moi, j'ai profité des vacances métropolitaines parlementaires pour travailler sur le terrain ici. Mais maintenant, c'est la rentrée là-bas. Et la rentrée là-bas, il faut y aller. Il faut aller en métropole pour expliquer que, attention, vous avez déjà dissous l'Assemblée nationale pendant les émeutes du 13 mai 2024. C'est pas le moment de redissoudre l'Assemblée nationale, un moment où on doit faire valider notre accord. Parce que vraiment, si vous voulez pas aider la Nouvelle-Calédonie, vous pouvez pas mieux vous y prendre.
Interrogé sur l'attitude des groupes politiques à l'Assemblée nationale, Nicolas Metzdorf affirme que ça ne sert à rien d'essayer de convaincre LFI parce que ce sont des fous furieux. Il pense en revanche que l'on peut discuter avec le Rassemblement national qui veut apporter des améliorations à l'accord. Quant à l'attitude du FLNKS, le député de la première circonscription parle d'une guerre des chefs au sein du FLNKS et il affirme que Christian Théin a dit à sa délégation de signer l'accord de Bougival.
D'abord, il a dit qu'il n'était pas à Bougival. Ben, moi, je l'ai vu. Puis en plus, Christian Théin, c'est une personne qu'on peut reconnaître. Donc j'ai reconnu Christian Théin. Il était à Bougival à 5h du matin et la délégation du FLNKS signe l'accord à 6h du matin, après avoir passé la nuit à discuter. Donc moi, je veux bien que Christian Théin vienne à 5h du matin voir la délégation du FLNKS pour leur dire de ne pas signer et que la délégation, en fait, se moque de Christian Théin et signe quand même. Mais le plus probable, c'est que Christian Théin leur ait dit de signer. Et c'est les informations que l'on a. Donc je crois que le FLNKS, aujourd'hui, on ne sait plus trop ce que c'est. Depuis que le Palika et l'UPM sont sortis du FLNKS et que c'est devenu le repère des groupuscules les plus radicaux, il y a quand même une espèce de guerre des chefs là-dedans. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un interlocuteur pour nous qui est très solide.
Nicolas Metzdorf a aussi évoqué les élections municipales, alors que son parti Génération NC a réuni samedi dernier un séminaire sur ce thème. Il estime que c'est le bon moment pour lancer la campagne avec une consigne claire.
La consigne politique, elle est très claire. Elle est de favoriser l'unité des non-indépendantistes partout où c'est possible, au maximum.
Ça va être compliqué.
C'est compliqué, évidemment, parce que comme c'est des élections locales, il y a des ambitions locales. Et on ne peut pas empêcher la démocratie au niveau local de devoir s'exprimer. Mais mon rôle à moi de président de parti et de député, c'est de rappeler une chose de très simple. Les élections municipales, ce n'est pas que des élections municipales. Parce que les conseillers municipaux et les maires, c'est les électeurs des sénateurs. Et donc, à un moment donné, les sénateurs, c'est 50% des parlementaires calédoniens. Et on voit à quel point le Parlement national est important pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, il ne faut pas envoyer des représentants qui soient des indépendantistes ou proches des indépendantistes.
Une interview du député Nicolas Metzdorf qui est à retrouver en podcast, audio et vidéo sur notre site internet. Et elle sera rediffusée dimanche soir en intégralité, comme chaque semaine, juste après notre édition de 17h45.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et voici notre question du jour. En cas de chute très probable du gouvernement Bayrou le 8 septembre, pensez-vous qu'Emmanuel Macron va décider de dissoudre l'Assemblée nationale? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Vous envoyez bien sûr votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier. Après la chute historique de la fréquentation touristique à la suite des exactions de mai 2024, 90% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que la Nouvelle-Calédonie ne va pas parvenir venir relancer sa filière touristique. Ils ne sont que 10% à penser qu'elle va arriver à la relancer. Une visite sur le terrain pour le haut-commissaire Jacques Billan. Il s'est rendu à Dimbéa ce matin, accompagné notamment de la commissaire déléguée pour la province sud, Catherine Merckx, Léo Fichouf.
Une visite qui a débuté à l'hôtel de ville de Dimbéa par une réunion avec des élus municipaux et le maire de la ville, Johan Lecourieux. Après cet entretien, le haut-commissaire s'est rendu dans les écoles Louise de Gréland et Jacques Minguet, deux établissements qui ont subi des dégradations importantes pendant la période insurrectionnelle de 2024. Des travaux de rénovation financés par l'État à hauteur de 199 millions de francs ont donc été entamés, toujours dans la continuité de reconstruire le territoire, souligne le haut-commissaire Jacques Billan.
L'appui à la reconstruction des bâtiments publics qui ont été détruits pendant les événements de 2024 sont une priorité des collectivités. C'est aussi une priorité de l'État, puisque la décision a été prise d'accompagner ces reconstructions ou ces réhabilitations à hauteur de 80% pour tous les établissements publics et d'aller à 100% d'accompagnement pour les écoles. Les marchés ont été lancés par la mairie et aujourd'hui, donc, on est en phase de reconstruction de l'école avec un projet d'ouverture de l'école en avril 2026. C'était vraiment une nécessité et une attente forte de la part des parents et bien sûr des élèves.
Dans l'école élémentaire Jacques Minguet, ce sont les salles de classe et la cantine qui avaient été incendiées. Les travaux devraient permettre une rentrée des enfants en 2026. Mais pour Louise de Gréland, le chantier sera un peu plus long, explique le maire de Dimbéa, Johan Lecourieux.
Il y a un décalage parce que Minguet sera opérationnel à la rentrée scolaire et de Gréland, on va réunir l'école maternelle et élémentaire au même endroit, vrai groupe scolaire. Et donc il y aura un décalage dans la rentrée sur site. Mais les enfants seront en préfiguration dans l'ensemble des écoles de la commune.
Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est parce que l'école maternelle était trop endommagée?
Déjà, l'école maternelle était très endommagée, puis c'est aussi on tient compte de l'évolution des effectifs dans le quartier. Et donc, il suffit d'adapter et on préfère que les enfants fassent leur scolarité dans le même établissement, que ce soit en maternelle ou en élémentaire.
L'école maternelle Jacques Arandas fera donc désormais partie du groupe scolaire de Gréland qui accueillera 10 classes d'élémentaire et 3 classes de maternelle. Le chantier vient tout juste de débuter. Avant de penser à une ouverture, il faudra encore transformer 3 classes en sections de maternelle, rénover complètement les salles, la cantine, les salles informatiques, la bibliothèque, les bureaux, mais aussi acquérir du mobilier. Le haut-commissaire s'est ensuite rendu à la station d'épuration de la ville, puis dans différents quartiers de la commune comme à Pogoti, avant de terminer sa visite sur la promenade Jules Renard et à la mairie du Nord.
Dans l'actualité de ce vendredi soir également, on parle de plus en plus du conflit entre le port autonome et la Chambre des métiers de l'artisanat. Le dossier fait d'ailleurs l'objet d'un recours devant le tribunal correctionnel et la présidente de la CMA a tenu à apporter quelques précisions, Jean-François.
Cela fait 40 ans que la CMA est installée à Nouville sur ce terrain de la Nouvelle-Calédonie dont la gestion est assurée par le port autonome. Les bâtiments de la CMA y sont installés, eux, depuis 35 ans, construits sur fonds propres de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Le litige actuel porte sur le loyer réclamé par le port à la CMA. Il est apparu à la fin de l'AOT, c'est-à-dire de l'occupation temporaire du terrain par la CMA, explique sa présidente Elisabeth Rivière.
Elle avait une occupation temporaire pour ce terrain de 30 ans, ce qui expliquait qu'on avait un loyer qui n'était pas important puisqu'il était basé sur la location du terrain et non pas sur les constructions puisque ces constructions nous appartenaient. Donc à l'issue de cette AOT, le port a récupéré l'ensemble des bâtiments en partie dans ses papiers. C'est la Chambre de métier qui, depuis 2016, à la fin de cette AOT, entretient l'ensemble de ces bâtiments, donc paye les réparations, qui sont normalement les réparations que devrait effectuer le port. Et de plus, la CMA paye les impôts fonciers pour ce terrain.
Le port autonome réclame devant le tribunal administratif le versement de loyers impayés que la CMA n'aurait pas effectué, mais ce n'est pas le fond du dossier pour Elisabeth Rivière.
Nous ne contestons pas qu'il peut y avoir des loyers à régler. Mais ce que nous contestons, c'est l'augmentation de ces loyers de plus de 2000%, plus de 2000%. Et pour un établissement public de la Nouvelle-Calédonie qui est là pour accompagner les artisans, pour les promouvoir lors de salons, lors de diverses manifestations, c'est tout à fait inacceptable. Nous ne sommes pas là pour gagner de l'argent, pour faire du business, comme ça a été dit par le directeur du port. Nous sommes bien là pour rendre un service public aux artisans. Et ce pourquoi nous ne voulions pas payer un loyer aussi important, parce que nous estimons que nous ne devons pas dépenser un loyer qui aujourd'hui s'élève à 4,5 millions de francs par mois. Donc nous ne pouvons pas rester dans cette situation et nous préférons utiliser cet argent pour accompagner l'ensemble de nos artisans. Si ça, ce n'est pas de la bonne gestion, je ne sais pas ce que c'est que de la bonne gestion.
La présidente de la CMA est aussi maire du Mont d'Or. Ce matin, dans Vous avez un avis, une auditrice s'est interrogée sur la gestion de la commune alors qu'elle estime que la gestion de la CMA n'est pas correcte, ce que dément évidemment Elisabeth Rivière.
La gestion de la Chambre de métiers et de l'artisanat est très saine. Nous ne sommes pas des néophytes dans la gestion d'institutions. Nous savons gérer des institutions, mais malheureusement, quand nous reprenons des mandats, il y a des sujets qui restent et qui traînent. C'est ce qui se passe à la Chambre des métiers. Ce sujet date de 2014. Depuis mon arrivée en 2022 à la CMA, c'est un dossier que je traite avec beaucoup d'attention et avec beaucoup de rigueur. L'ensemble des autres élus de la Chambre, la majorité ou l'opposition, connaissent très bien ce dossier. Nous sommes bien sûr suivis dans nos comptes par un commissaire aux comptes qui vérifie chaque année que l'on a bien tenu compte de ce litige avec le port et dans nos financement est inscrit une ligne qui permet, entre autres, de pouvoir abonder ce litige financier.
Une partie du litige sur le loyer a été portée devant le tribunal administratif par le port autonome. Il a été étudié en audience cette semaine. Le tribunal rendra sa décision le 25 septembre.
Avant de marquer une première pause dans ce journal, cette information pratique, Air Calin annonce de nouvelles modifications d'horaire pour ses vols SB500 et SB501. Le vol SB500, nommé à Bangkok-Paris, prévu à 1h30 la nuit prochaine, partira finalement de Tontouta à 14h25 demain. Ensuite, le vol SB501 Paris-Bangkok-Nouméa atterrira finalement lundi soir à 19h35. Les passagers concernés par ces modifications ont été informés par la compagnie Air Calin qui annonce que, et je cite, « ce recalage de la rotation entre Nouméa et Paris via Bangkok vient clore l'aléa technique de ces derniers jours ». Fin de citation. Il est 18h01, on va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, la suite de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
comment réduire mes impôts tout en relançant l'économie du pays. Tu le sais, toi ?
Bien sûr. Fais appel à des professionnels pour réaliser des travaux sur ta maison et profite des nouvelles mesures fiscales accordées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Comment ça ?
Maintenant, tous les travaux sont éligibles dès ta déclaration 2025. Intérieur ou extérieur, habitation principale ou secondaire, ancien ou récent, tous les travaux, sauf bien sûr l'entretien courant, les petites réparations, la déco.
Et c'est tout ?
Attends, cerise sur le gâteau, le plafond des travaux déductibles passe à 15 millions étalés sur 3 ans dès 2025.
Ah bah ça, c'est un sacré coup de pouce.
Nouveau dispositif, travaux déductibles, réduisez vos impôts, relancez l'économie.
Liste des travaux éligibles sur dsf.gouv.nc.
Caroline de Groisel vous invite à découvrir sa nouvelle collection intitulée « Variations en fantaisie couleur » à la galerie Artebello rue Auguste Brun, expo jusqu'au jeudi 11 septembre, du mardi au samedi de 9h30 à 17h30. Variations en fantaisie couleur de Caroline de Groisel, ne passez pas à côté.
Info soir, Lionel Sabot.
À Thiot, une manifestation ce matin des parents d'élèves du collège Francis Rouget. Ils entendaient protester contre la fermeture de cet établissement privé. Après une marche depuis la mission de Thiot jusqu'au village, une délégation de l'APE a été reçue par le maire de Thiot, Jean-Patrick Toura, et son conseil municipal. La gendarmerie annonce la résolution de l'affaire du cambriolage de Farino. Le 21 juillet dernier, un individu s'était introduit, vous le savez, dans une maison et avait agressé physiquement un garçon de 11 ans avant de prendre la fuite. Les images avaient été capturées par une caméra de vidéosurveillance et l'agresseur, formellement reconnu par la victime, comparaîtra devant le tribunal correctionnel ce mois-ci. La troisième session d'assises de l'année s'ouvre lundi. 6 dossiers seront jugés jusqu'au 23 septembre. 2 affaires de sang, 4 affaires de mœurs. Le premier dossier examiné mardi et mercredi prochain sera un meurtre survenu le 22 mai 2021 à Coutiot. Dans un contexte d'alcoolisation massive, une bagarre a éclaté entre deux individus âgés d'une quarantaine d'années. Claire Lannet, substitut du procureur.
Les faits se sont déroulés dans un contexte, comme très souvent d'ailleurs sur le territoire, dans un contexte d'alcoolisation massive où deux individus vont en venir aux mains pour des questions futiles, vont se battre. Il sera mis un terme à l'altercation, mais un des deux protagonistes va vouloir revenir. La bagarre va continuer à point nu, sauf que l'un d'entre eux a dans sa poche un ciseau assez effilé et le sortira de sa poche pour emporter plusieurs coups, au moins 3 ou 4 à la victime, dont un l'atteindra au cœur, puisqu'il va traverser le ventricule gauche, et l'autre l'atteindra au flanc, perforant le côlon. La victime ne décédera pas immédiatement, raison pour laquelle d'ailleurs la garde à vue avait démarré sous la qualification de tentative d'homicide volontaire et finalement requalification en homicide volontaire suite au décès de la victime. La fille de la victime, âgée de 11 ans au moment des faits, était présente dans la maison et a entendu finalement les hurlements, les cris et la bagarre.
Et au cours de cette session, une affaire de violence en réunion ayant entraîné une infirmité permanente sur un parking de Dimbéa en 2022 sera jugée en appel. En première instance, en 2024, un accusé avait été condamné à 5 ans de prison. Les deux autres mis en cause ont été condamnés à 20 ans et 6 ans, mais eux n'ont pas fait appel. La Cour se penchera aussi sur un viol en réunion commis à Thiot en 2009, ainsi qu'un autre viol sur personne vulnérable sera jugé, ainsi que 2 affaires de viol qui ont duré dans le temps au sein du cercle familial. L'actualité judiciaire, c'est aussi ce communiqué du procureur de la République, Yves Dupas, qui indique que le parquet a ouvert une information judiciaire le 31 juillet 2024, suite au décès d'une personne incarcérée au centre pénitentiaire de Nouméa. Dans cette procédure, il s'agit d'une personne détenue décédée le 20 mai 2024 au centre hospitalier du Médipôle, quelques heures après son admission dans l'établissement. L'homme s'était plaint d'une douleur à la jambe qui avait enflé. L'autopsie réalisée le 23 mai 2024 n'avait pas permis de déterminer les causes du décès. Le procureur de la République indique dans ce communiqué diffusé cet après-midi que dans le cadre de cette information judiciaire, des investigations médico-légales se poursuivent sous l'autorité du magistrat instructeur afin de déterminer les causes du décès de cette personne et les conditions de sa prise en charge médicale. Le CESE était réuni ce matin en séance plénière dans la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville du Mont d'Or. Un seul point à l'ordre du jour, l'examen du projet d'avis sur l'extension des missions du fonds nickel à la province sud. Les explications de Pascale Delay, vice-présidente de la commission des mines, de la métallurgie et des énergies.
Un texte qui a obtenu l'approbation et le vote de tout le monde, unanime, de tout le monde. Disons que les mines, il y a forcément derrière des dégâts. Et donc, ce fonds nickel, en tout cas cette compensation écologique, permet un reboisement, remettre des espèces endémiques qui auraient pu être détruite lors du travail de la mine. La compensation écologique reste une mesure contre l'érosion, le remodelage des terres. C'est quand même important et c'est un outil important. Ça touche toutes les mines en province sud, donc Prony et compagnie.
Une extension des missions du fonds nickel qui concerne seulement la province sud. Le CESE espère que les élus de la province nord s'empareront également du sujet. L'UNC a organisé hier et ce matin la 18e édition des Doctoriales, une manifestation scientifique et académique qui met en lumière la richesse et la diversité des thématiques de recherche explorées sur le territoire et dans le Pacifique, Léo.
Oui, 12 doctorants et doctorantes ont présenté leurs travaux lors de différentes séquences à l'UNC, mais aussi à la CCI devant un public attentif et bien évidemment devant un jury qui a ensuite pris le temps de délibérer pour départager ces jeunes chercheurs. 3 prix ont été décernés et c'est Sophie Cherrier, doctorante en 4e année, qui a remporté le prix de valorisation pour ses recherches sur les neurosciences cognitives en éducation. Elle ne s'attendait pas du tout à cette récompense, on l'écoute.
Alors au départ je ne devais pas faire les doctorales parce que comme j'ai déjà pas mal communiqué, etc., il m'avait été dit que j'avais pas nécessité de le faire et puis au dernier moment ils m'ont dit si c'est une obligation. Donc voilà, et comme je suis en fin de thèse, là, je l'ai fait parce que je dois le faire, ça fait partie du chemin du doctorant. Et du coup, bah oui, là, je n'ai pas réalisé que j'allais me retrouver à valoriser ma recherche, mais bon, je vais voir un petit peu comment on peut valoriser effectivement la recherche que j'ai effectuée à l'université auprès des étudiants dans le domaine des neurosciences. Et puis, je vais réfléchir un petit peu à comment on pourrait valoriser les choses. J'avoue que ça m'est un peu tombé dessus, donc pas forcément réfléchi à tout ça.
Et donc, est-ce qu'on peut rappeler votre thèse, sur quoi elle portait ?
Alors, ma thèse, elle porte sur les neurosciences cognitives en éducation, comment apprendre aux élèves comment fonctionne leur cerveau va leur permettre effectivement de mieux réussir à la fois d'un point de vue académique, mais aussi d'un point de vue personnel, en fait.
Un prix accompagné de 300 000 francs pour l'aider dans ses recherches et donc dans la valorisation de son travail. On notera également que Cédric Wari a remporté le prix première année pour sa thèse sur les plantes médicinales phares en Nouvelle-Calédonie. Le prix deuxième année et plus a été décerné à Adriana Louga pour son étude sur la leptospirose.
Le lycée Jules Garnier organisait une matinée dédiée à l'éducation du développement durable. Pour cet événement, une vingtaine de stands et de partenaires associatifs étaient présents. Xavier Gauthier, enseignant au lycée Jules Garnier, référent à l'éducation au développement durable.
L'objectif principal, c'est l'éducation, c'est quand même notre rôle. Donc les découvertes de ce qui se fait en Nouvelle-Calédonie grâce à ses bénévoles et à ses institutions. Cette éducation au travers du professionnel de l'extérieur du lycée, par l'expérience, par bien souvent... On ne connaît pas forcément tout ce qui se fait autour de nous, donc c'est bien d'apprendre par les petites expériences qui sont proposées, par les illustrations et par le contact directement et les échanges avec les personnes. La formation, la citoyenneté, comment s'investir, pourquoi on ne s'investirait pas nous-mêmes dans ces associations-là si on est intéressé pour donner son sang, par exemple. On a plein de thématiques et ça permet de faire évoluer les mentalités, donc accompagner nos élèves, en fin.
Et les élèves présents aujourd'hui étaient tous ravis et intéressés de participer à cette matinée solidaire.
Je pense que c'est une journée, oui, qui a été très utile au lycée pour permettre à tout le monde de découvrir plein d'associations, plein d'activités à faire en dehors du lycée.
Et puis ça permet à plein de personnes de découvrir différentes associations, que ce soit au niveau financier par exemple. Il y a des associations qui viennent pour parler un peu d'eux.
Cette journée, elle est bien parce qu'on apprend chaque association.
Enfin, c'est divers et je trouve que c'est super bien parce que c'est rare qu'on nous en parle. Bien souvent, on voit des pubs, des trucs comme ça, mais personne ne s'y intéresse vraiment. Alors que là, les associations, elles présentent des activités qui nous permettent de découvrir un peu mieux, de s'intéresser un peu plus.
C'est à nous de monter au mieux la journée. En tout cas, elle compte beaucoup pour nous parce que ça met en valeur toutes les petites associations qui nous aident au quotidien.
Des propos recueillis par Marie Romain. Chaque année, depuis 10 ans, le lycée Jules Garnier organise une journée pour traiter toutes les thématiques liées au développement durable. Le CFA de la CCI ouvre ses portes demain matin, un temps fort qui marque une étape de la période d'inscription à la rentrée 2026. Futurs étudiants, lycéens et parents sont attendus pour découvrir les formations, les programmes, à rencontrer la direction, les équipes pédagogiques et les étudiants. David Leclerc, directeur des écoles de la CCI.
On propose cette matinée porte ouverte à tous les candidats ou toutes les personnes qui envisagent de faire de l'alternance, puisque nous on a un centre de formation pour l'alternance, pour que les les alternants puissent présenter eux-mêmes leur formation et les métiers qui en découlent. C'est l'occasion pour les candidats ou les personnes qui sont intéressées de découvrir notre mode de fonctionnement, les formations elles-mêmes, rencontrer les alternants, rencontrer des anciens, des alumni également, pour savoir ce qu'ils sont devenus, comment ils se sont insérés professionnellement. Ça, c'est important de voir un petit peu comment ça se passe. Rencontrer des formateurs également. Cette matinée, comme toutes nos formations par alternance, que ce soit de niveau bac, bac plus 2, voire bac plus 3, sont ouvertes à toutes les personnes qui ont plus de 16 ans, et ça sans limite d'âge, c'est-à-dire que vous ayez 25, 30, 35, voire plus. C'est tout à fait possible d'intégrer une formation par alternance pour l'année prochaine.
Les portes ouvertes du CFA de la CCI, c'est donc demain matin de 8h à 13h. Ouvrons à présent l'agenda culturel du week-end avec le sport aquatique qui sera à l'honneur demain dans les piscines municipales de Nouméa, Kalinda Boiscou.
Les Nouméens pourront pratiquer de 8h à 13h le water polo, la natation synchronisée, l'aquapalme ou encore l'aquagym. Une journée découverte de toutes ces activités aquatiques est organisée à la piscine du Wentoro. Vivian Chaillet, chef de la section piscine de la ville de Nouméa, nous en dit plus.
La majorité des associations sportives du domaine de la natation, le hockey subaquatique, on a de l'apnée, des initiations de water polo et tout ça. Donc les associations sportives comme le CNT, l'Olympique, le hockey subaquatique seront représentées à la piscine Jacques Morène du Wentoro pour ouvrir au public, pour s'informer, pour s'initier et derrière pour s'inscrire dans leurs associations. On a 6 associations présentes et ensuite on aura un stand sur site à la piscine Jacques Morène pour la mairie et les activités qui sont proposées dans les piscines et un stand de la province sud pour le dispositif Click and Move. La deuxième piscine qui est ouverte le week-end, le centre aquatique de Nouméa, sera également ouvert. Il n'y aura pas d'activité particulière sur le centre aquatique, mais on sera sur une porte ouverte en fait pour une gratuité toute la journée d'ouverture. Alors nous, on met en place les fêtes du sport justement pour aussi alimenter le tissu associatif et leur donner la possibilité de se promouvoir au sein aussi des structures qu'elles utilisent au quotidien pour venir faire leur créneau d'entraînement.
L'entrée est gratuite dans les piscines du Wentoro et au centre aquatique de Majata. Dimbéa vivra au rythme du 10e salon nature, maison et déco qui revient au parc Fayard. Les visiteurs seront attendus demain et dimanche de 9h à 18h. Ils découvriront sur place 80 exposants, un salon placé sous le signe de l'habitat durable, la décoration éthique, la nature, le jardin et l'écologie au quotidien.
La fête agricole de Pointe-Boute aura lieu demain, sa 11e édition, sur l'ancien hippodrome de la commune, Kalinda.
Avant le rodéo, en fin de journée, il y aura l'expo-vente de têtes de bétail, jeux équestres, démonstrations hippiques, concerts, danses et plein de concours de mangeurs de maïs, de fouets, de cuisine ou d'épluchage de pommes de terre. Les précisions de Katia Moglia, la présidente du comité organisateur de la fête agricole.
Cette fête agricole, c'est un rendez-vous annuel qui rend hommage à nos agriculteurs et ses métiers et à son rôle essentiel sur notre île. On a des jeux équestres, on a une vente et exposition de bovins, on aura un concours culinaire, un concours de mangeurs de maïs, un concours d'épluchage de pommes de terre et un concours d'agilité au fouet. Et à 16h30, on aura le grand rodéo. L'année dernière, il n'y avait pas de vente et exposition de bovins. C'est ce qu'on a rajouté cette année. On a pris contact avec l'Ubra Bovine pour que les éleveurs puissent s'inscrire. On n'a pas eu énormément de monde, mais on a eu quand même un éleveur qui est venu s'inscrire et le lycée qui présente ses bovins. J'invite toute la Calédonie à venir redécouvrir cette fête agricole et venir participer aux différents concours.
La 11e fête agricole, c'est demain de 8h à 19h sur l'ancien hippodrome de la commune de Pointe-Boute.
Sur vos agendas également, le Conservatoire des Arts qui présentera demain à 18h son spectacle Île de Lumière.
Il s'agit du spectacle Pachaï présenté par un quatuor atypique composé de violon, voix, guitare, basse, batterie qui vous embarquera dans un voyage musical sans frontières, mêlant jazz, world et rock à travers des compositions originales sous la direction artistique de Paul Dubois. Réservez vos places sur etiquette.nc. La Miss Nouvelle-Calédonie 2025 sera élue demain au Méridien. Le thème cette année sera naturel. 8 candidates seront sur la scène du Méridien pour tenter de décrocher le diadème et succéder à Emma Grousset, qui est restée ambassadrice de beauté durant 2 ans. Le comité Miss Nouvelle-Calédonie rappelle que le numéro pour voter pour la candidate de son choix est le 4008. La grande gagnante partira représenter le territoire lors du concours de Miss France au mois de décembre.
Et puis à noter également le grand vide-grenier de la ville de Nouméa qui envahira le dimanche 7 septembre la place des Cocotiers, comme chaque premier dimanche du mois. De 7h à midi, plus de 250 stands seront installés du kiosque à musique jusqu'à la place de la Paix. Puis à Boulou-Paris. Une fête de l'arbre est organisée de 9h à 15h dimanche. C'est au marché municipal avec des dons, des ventes et des échanges d'arbres en plus du marché de produits locaux. Il est 18h16. On va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité dans la région Pacifique, le sport et la météo.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Il suffit parfois de voir les choses autrement. Et si la formation était la solution?
Artisans, chefs d'entreprise, en activité ou en reconversion,
aujourd'hui plus que jamais, la CMANC est à vos côtés avec des formations pensées et créées pour vous.
Vous souhaitez obtenir une qualification ou un diplôme dans les domaines techniques, la gestion, la communication, le numérique ou la réglementation?
Nos formations concrètes et pratiques sont accessibles à tarifs préférentiels en partie financés avec le 3FA.
Venez renforcer vos compétences et faire évoluer votre activité.
Contactez nos conseillères au CFA au 25 01 71 à Nouméa ou 47 30 14 à Gonnet. Retrouvez toutes nos formations sur cma.nc.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite de votre journal avec Lionel Sabot.
Et l'actualité dans la région Pacifique. Le Premier ministre australien a annoncé que son pays allait reconnaître la création d'un État palestinien lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU. Mais cette décision fait grincer quelques dents, y compris celle de l'ancien Premier ministre libéral John Howard, Jean-Pierre Zajac.
John Howard et celui qui fut son ministre des Affaires étrangères, Alexander Downer, ont déclaré dans un communiqué commun que la reconnaissance de l'État palestinien est, je cite, « prématurée » et qu'elle constitue, je cite encore, « une trahison du droit international ». Cela va créer un précédent dangereux, ont-ils dit, et enraciner la division au lieu de promouvoir la paix. Les deux anciens hommes politiques ont également estimé qu'Anthony Albanese et son ministre de l'Intérieur, Tony Burke, ont sapé une relation durable de confiance entre l'Australie et Israël. Aucune considération, ont-ils regretté, n'a été accordée au fait qu'Israël demeure la seule véritable démocratie au Moyen-Orient. Reconnaître prématurément la Palestine n'est pas seulement une piètre diplomatie, c'est une imprudence et un grave danger, ont-ils conclu. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Allez, venons-en à l'actualité sportive et on ouvre l'agenda sport du week-end avec du football et le coup d'envoi des qualifications à la Coupe du Monde 2026. L'équipe de France entame demain matin sa campagne de qualif en rencontrant l'Ukraine. La rencontre se jouera en Pologne. Du rugby ce week-end également et le coup d'envoi de la saison 2025-2026 du Top 14, c'est le championnat de France élite. Les matchs se joueront dimanche et lundi matin pour nous. À suivre le Stade français Montauban, Perpignan-Bayonne et Castres-Pau, Lyon Racing 92, Montpellier-Toulon et Bordeaux-Bègles-La Rochelle. Cette première journée de Top 14 se terminera lundi avec un choc entre Clermont et le Stade Toulousain, le champion de France en titre. Le rugby, c'est aussi dans notre hémisphère la troisième journée du Rugby Championship. À suivre demain à 15h30, Australie-Argentine et à partir de 18h05, le choc entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, l'équipe championne du monde en titre. Du rugby au féminin également avec la suite de la Coupe du Monde en Angleterre chez les Dames. L'équipe de France rencontrera pour son dernier match de poule l'Afrique du Sud. Match à suivre dans la nuit de dimanche à lundi, ce sera à 2h45. On se passe au sport mécanique.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La Formule 1, c'est la 16e manche du championnat du monde. À suivre le Grand Prix d'Italie sur le tracé de Monza. Les premiers essais libres se courront ce soir et tôt demain matin pour nous. La séance de qualification, ce sera à suivre dans la nuit de samedi à dimanche à partir d'1h du matin. Le Grand Prix, lui, sera à suivre dimanche soir, départ de la course à minuit.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacifique. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Au chapitre sport mécanique encore de la MotoGP ce week-end avec la 15e manche du championnat du monde. Pilotes et écuries se retrouvent en Espagne pour le Grand Prix de Catalogne à Barcelone. En Espagne toujours du cyclisme avec la suivre ce week-end, la suite de la Vuelta et puis du tennis et avec la suite et la fin de l'US Open. Ce sera bien sûr sur les cours de Flushing Meadows. À New York, avant de passer au sport sur le territoire, un mot de karting pour vous signaler que 3 Calédoniens sont engagés ce week-end sur la grande finale du championnat d'Australie à Coff Harbour. Et puis du golf pour signaler qu'Hugo Koch, vainqueur le mois dernier du South Pacific Junior Open organisé à Tina, sera engagé ce week-end sur le Texas Intercollege. Le Calédonien désormais classé 4859e au classement mondial amateur. Sur le territoire à présent, on parle de football, Léo Fichou, après les demi-finales de la Coupe de Calédonie le week-end dernier, place au quart de finale de Super League. Ce sera demain et dimanche.
Oui, on connaît déjà le premier qualifié pour ces demi-finales. Il s'agit du CA Saint-Louis, vainqueur au tir au but d'Horizon Passo lors du barrage. Saint-Louis attend de connaître son futur adversaire. Ce sera soit Tigasport, soit l'AS Cougnier qui s'affrontent dimanche à 12h au Stade Madélé. Mais avant ça, demain à 14h, l'AS Lossi défiera Gaïcha. Puis à 17h30, Yengensport sera opposé à l'AS Magenta et toujours au Stade Madélé.
Du sport collectif encore avec du rugby.
Oui, les demi-finales ce soir du championnat de Nouvelle-Calédonie. Au programme, le RC Mondor, premier de la saison régulière, reçoit le CREC, quatrième. L'URCD, deuxième du championnat, reçoit l'Olympique, troisième des rencontres à suivre dès 19h.
Du cricket également, avec la suite des phases finales du championnat territorial après la victoire d'Ouvéa la semaine dernière chez les dames. Place ce week-end aux hommes. Demain à 8h en demi-finale, Ouvéa affrontera l'AS Kirikitch. Le vainqueur sera opposé en finale dimanche à 8h à l'AS Berumas. En mer, Léo, le rendez-vous est donné pour la No Woman No Sail.
14e édition de cet événement organisé par le Cercle Nautique Calédonien, l'Association Défi Défi et le Catamaran Club de Nouméa. Demain et dimanche, des régates en J70 et en Twin 415, 100% filles, 100% voile et 100% fun. Il y aura aussi un aquathlon demain au Mont d'Or, au complexe sportif et culturel Bueva de Boulari. Deux formats seront proposés pour les 12-15 ans et pour les plus de 16 ans. Le départ sera donné à 7h.
Demain également, la 8e réunion épique de la saison. Le Grand Prix de la Province Nord rassemblera les passionnés et curieux sur l'hippodrome de Boulou-Paris. Les portes s'ouvriront à 9h avec au programme 9 courses. L'entrée est à 300 francs. On termine cet agenda des sports avec du badminton à Païta. Les badistes du territoire ont rendez-vous demain et dimanche pour le tournoi Extrême Païta, un tournoi amical en double. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Pierre.
Vigilance jaune pour vent violent. Demain après-midi, la pointe nord-ouest de Calagomène à Bélep, le sud-est en sortie de vallée de Wailou à Yaté, ainsi que Lifou et Marais seront concernés par un vent de secteur sud soufflant entre 25 et 30 nœuds, avec des rafales pouvant atteindre 35 à 40 nœuds, soit 60 à 70 km/h. Cette nuit, les nuages resteront plus nombreux du sud des Loyautés à l'île des Pins, accompagnés d'averses parfois soutenues en fin de nuit. Sur la côte est, les nuages et averses se dissiperont progressivement, laissant place à un ciel étoilé, qui est parfait pour les amoureux. Sur l'ouest, la couverture nuageuse persistera, particulièrement sur le sud-ouest, où de petites ondées se produiront encore. Le vent soufflera généralement de sud à sud-est sur la côte ouest, 5 à 10 nœuds, restera faible ou variable sur la côte est, 5 à 10 nœuds encore, et se maintiendra de nord-est aux Loyautés, 10 à 15 nœuds. Les températures nocturnes demeureront élevées pour la saison, comprises entre 18 et 22 degrés. Demain matin, le soleil dominera sur la côte est et l'extrême nord. Ailleurs, les nuages resteront majoritaires avec de rares averses qui remonteront vers le sud-ouest, mais surtout vers les Loyautés où elles pourront se montrer parfois soutenues. Le vent restera faible sur la côte est, protégé par la chaîne. Ailleurs, il soufflera de sud-sud-est entre 10 et 15 nœuds, atteignant localement 15 à 20 nœuds sur le nord-ouest.
Merci Pierre, la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.